Chaque année, l'exercice se répète. On présente ses bons vœux, on souhaite que l'année nouvelle soit plus belle, plus joyeuse et plus heureuse que la précédente. Tel un vieux disque rayé que l'on ressort en janvier, on se promet de tenir des résolutions que l'on s'empresse d'oublier quelques jours plus tard. Si ce rituel annuel peut prêter à sourire, il nous permet de rester tourné vers l'avenir. On peut ainsi se projeter, même si on ne suit pas la route que l'on s'était tracée en ce début d'année. Les chemins escarpés et autres sentiers peuvent toujours nous y ramener dans les semaines et les mois à venir. Il ne faut pas hésiter à être ambitieux et à tenter ses projets les plus fous. N'arrêtez pas sous prétexte que tout le monde vous dit que ça ne marchera pas ou que c'est une lubie. Certains ont suivi leur lubie et ont changé le monde. Et si ça ne marche pas, vous croiserez sûrement des personnes qui vous feront aller vers une autre voie à laquelle vous n'auriez pas pensé. Oscar Wilde le disait, il faut toujours viser la lune car en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Autrement dit, tentez l'impossible et il vous arrivera peut-être quelque chose d'inattendu ou de nouvelles idées, de nouveaux projets viendront naître de cette expérience. Une nouvelle année permet de faire table rase du passé et de partir sur de nouvelles bases, ou à contrario, de poursuivre et concrétiser un projet en cours. Je terminerai avec une citation de Confucius, « Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance. » 2026, l'année de la réussite. On vous souhaite donc une bonne année et la réalisation de tous vos rêves, même les plus fous. Et maintenant, le sommaire. Ce soir dans la matinale, nous recevons Charlotte Cuentes pour parler de la loi protégeant les mineurs. Elle sera interviewée par Vladimir. Dans le Zoom, nous accueillerons Benjamin Tolozan, qui est au Métallo jusqu'au 10 janvier. Il sera interviewé par Diane. Tiana présentera le Flash Info et Farah nous présentera son livre et nous en fera découvrir le premier chapitre. En avant, première.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et aujourd'hui, nous recevons Charlotte Cuentes et nous allons parler de l'adoption de la loi protégeant les mineurs isolés, le temps de leur recours avec Utopia 56. Elle est interviewée par qui ?
Vladimir, tout à fait.
Vladimir, oui, c'est ça, c'est moi qui,
y a pas de souci.
C'est moi qui ai fait un petit truc, excusez-moi. Bonjour Charlotte.
Bonjour
Charlotte.
Bonsoir, merci.
Bonjour Vladimir et je te laisse la parole.
Merci beaucoup. Charlotte Cuentes, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir, du coup, pour la matinale de 19h. On va être ensemble pendant une vingtaine de minutes pour aborder tous les sujets. Donc, je le dis, tu es coordinatrice nationale chez Utopia 56, qui est une association française fondée en 2015 qui vient en aide aux personnes en situation irrégulière et aux réfugiés, avec plein de champs d'action différents. Donc, tu as aussi fait du plaidoyer pour eux. On va aborder des sujets aujourd'hui, donc des sujets qui sont lourds comme le mal logement, le sans-abrisme, les exilés et notamment dans ce contexte-là particulier de cet épisode de froid qu'on traverse et toutes les actions que vont mener. Je vais commencer par une première question. Je vais te demander pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, si jamais tu pouvais dresser un premier bilan aujourd'hui du sans-abrisme en France en 2025, maintenant 2026.
Le bilan, il est assez triste. En France, on compte 350 000 personnes sans domicile. Alors, ça ne veut pas dire que ces 350 000 personnes sont toutes sans abri à la rue. Ça veut dire que parmi elles, il y a des personnes qui sont mal logées, qui sont logées hébergées au 115 ou donc effectivement sans abri. Donc, c'est un panel assez large. On compte quand même, je crois, près de 4000 enfants qui, eux, sont sans-abri en France, enfants en famille. Et ça exclut tous les foyers, tous les ménages, tous les gens qui ont cessé d'appeler le 115, qui est le numéro d'urgence sociale quand même sur tout le territoire, qui ont cessé de l'appeler parce que c'est un dispositif, donc le 115, qui se fait démanteler d'année en année, de vote du budget en vote de budget. À force de refus de solutions d'hébergement qui ont été proposées à de nombreuses personnes, à de nombreuses familles, des solutions qui sont souvent inadaptées, qui sont de courte durée et qui sont du coup pas dignes. Alors un certain nombre de personnes cessent d'appeler ça, donc cessent d'appeler le 115. Et donc les chiffres qui parlent du sans-abrisme des personnes sans domicile, c'est des chiffres qui sont forcément sous-évalués.
Sous-évalués parce que les gens n'appellent plus.
C'est pas exhaustif.
Donc c'est très certainement plus que 350 000 personnes.
Oui, et certainement plus que 4 000 enfants à la rue. Et notamment, on a, ça fait un peu le lien avec la suite de ce qu'on va discuter, mais ça, les 4 000 enfants qu'on compte comme étant sans-abri excluent les mineurs non accompagnés qui ne font pas partie des recensements parce qu'il n'existe pas de recensement officiel de ces personnes.
Bien sûr. On reviendra tout à l'heure du coup sur cette loi, cette fameuse loi qui a été votée fin 2025. Mais on parle notamment, donc, pour dresser encore un peu ce premier bilan avant de rentrer un peu dans le dur du sujet, on est dans une situation aujourd'hui aussi en France où on parle énormément de logements vacants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la rue ou qui sont mal logées et il y a énormément de logements qui sont vacants, qui sont inoccupés. Comment est-ce que tu expliques ça? Est-ce que tu peux nous donner un premier bilan, par exemple à Paris? Combien est-ce qu'on compte de logements qui sont inoccupés par rapport à tout ça?
Ouais, à Paris, j'ai peur de dire une bêtise, mais il y a plusieurs milliers de logements vacants à Paris. C'est notamment la propriété de gros propriétaires. Parfois, c'est des foncières qui possèdent des immeubles entiers qui sont laissés vides. Donc, on ne parle pas forcément de propriétaires lambda, quoi. On
parle. C'était le cas de la foncière du Triangle d'Or, de chez laquelle vous avez fait une action en décembre, justement le 25 décembre.
Et donc là, c'est très clair où il y a 7 à 8 immeubles, je ne sais plus, dans ce quartier-là, qui sont les quartiers les plus cossus de Paris.
Dans le 8e.
Et qui sont possédés du coup par une foncière qui laisse ces lieux-là vides, c'est même pas, ça rentre même pas dans le parc locatif, quoi, parce que ça, c'est plus rentable pour les propriétaires de posséder, de spéculer sur des logements, sur des bâtis, du coup, qui gardent vides plutôt que d'avoir des occupants. Voilà, donc c'est un scandale, comme il en existe plein, mais c'est un scandale qui, là, depuis en plus la période de froid, qui est en train de se révéler de plus en plus, notamment aussi parce que ça met en lumière une inégalité qui se creuse, un fossé qui se creuse entre les personnes les plus riches, évidemment, et les personnes pauvres, précaires et donc vulnérables, et surtout qui sont laissées pour compte. Ça, c'est surtout ça qui est scandaleux, c'est que l'argent existe, les lieux existent. Et on voit aussi même l'opinion des citoyens et des citoyennes françaises, parisiens, parisiennes, là, ces derniers temps, depuis qu'il fait froid, il y a une mobilisation qui est très forte quand même.
Il y a une augmentation de la mobilisation au vu notamment des vagues de froid.
Ouais, carrément. Alors, c'est quelque part, c'est dommage parce que la pauvreté, la précarité et le sans-abrisme existent même quand il fait pas froid et ça tue de la même manière même quand il fait pas froid.
Les études montrent en tout cas.
Mais quelque part, c'est quand même rassurant et je pense que les décideurs politiques devraient voir ça parce qu'il y a une très très forte mobilisation. Nous, depuis 2 semaines, c'est incroyable en fait, comme les gens sont touchés et qu'ils ne souhaitent pas ça en fait pour leurs compatriotes ou pour nos compatriotes d'autres pays venus à l'étranger. Ils ne souhaitent pas qu'ils s'en soient.
Il y a un sentiment d'humanité qui est révélé en tout cas par rapport à tout ça.
Oui, évidemment. Ouais. Et d'hospitalité parce que tout le monde a des expériences d'hospitalité à sa propre échelle. Et donc, en fait, finalement, quand on fait face à de telles inégalités de manière massive, forcément, on retranscrit ça. On a envie de transformer ce qu'on est capable de faire à sa propre échelle, à une échelle plus globale. Et donc, la mobilisation est plutôt forte, enfin, est très forte même.
Ce qui est du coup plutôt une nouvelle rassurante, même s'il faut que cette mobilisation continue. Il y a aussi, donc, on parlait des logements qui étaient vacants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les endroits pour pouvoir loger les gens. Il y a les moyens, et je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait aussi une loi qui existait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle la loi réquisition logement, qui est une loi qui existe en tout cas dans tout l'archipel de lois que peut utiliser le législateur et le gouvernement français et l'État français, notamment pour faire face à ce mal logement. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que cette loi réquisition logement ?
Donc c'est une loi qui a été édictée pour effectivement faire face aux difficultés des familles, des personnes qui avaient perdu leur logement suite aux destructions de la guerre, et suite à la guerre quoi, en 45. Et elle a été donc appliquée cette fois-là, elle a été réappliquée en 95, il me semble, par Jacques Chirac. Sur le même constat, en fait, c'est que c'était de lui-même qui a été maire de Paris et après président, et qui était un homme de droite, a constaté le scandale qu'il y avait à avoir dans sa ville à Paris, en l'occurrence, mais c'était là, c'est la même chose dans beaucoup d'autres endroits en France, un tel nombre de logements vides et un tel nombre de personnes à la rue, quoi. Donc voilà, ça ne fait pas sens. Et donc il a appliqué pour la dernière fois la loi réquisition qui depuis n'a plus jamais été appliquée.
Elle n'a plus jamais été appliquée depuis.
Non,
c'est une loi qui permet à l'État de réquisitionner des logements avec une contrepartie aux propriétaires.
Et il y a une indemnisation aux propriétaires. Donc souvent, quand on parle de réquisition, tout d'un coup, le narratif est transformé par les détracteurs de cette loi qui veulent une protection absolue, permanente des propriétaires, comme si cette loi venait mettre à mal le droit de propriété et venait complètement l'annuler, ce qui est faux. Les propriétaires restent propriétaires de leur logement. La réquisition, elle est permise entre 1 et 5 ans. Et pendant toute l'année ou toutes les années, toute la période pendant laquelle le logement serait réquisitionné, alors les propriétaires reçoivent une indemnisation de la part de l'État. Et la réquisition dure tant que le foyer en question, les ménages en question, les familles ou les personnes qui y sont logées aient accès à des solutions qui sont stables, pérennes, durables. Voilà. Donc c'est une loi qui a été pensée dans tous ces mécanismes pour que justement ça puisse permettre de, ensemble, actionner de la solidarité. C'est pas une usurpation d'un logement par l'État auprès des propriétaires. C'est comment est-ce qu'on actionne de la solidarité quand il y a des gens qui éventuellement n'ont pas conscience qu'il y a des gens qui ont besoin et qui n'ont pas. Alors l'État a ce rôle-là de trouver des mécaniques et des possibilités d'accrocher les gens les uns avec les autres. Mais voilà, cette loi réquisition, elle revient beaucoup là dans le débat. Et je trouve ça intéressant parce que nous, ça fait, à Utopia 56, ça fait au moins 4-5 ans qu'on essaye de mobiliser autour de cette question-là, de la réquisition qui est assez peu connue, qui est souvent, comme je disais, un peu transformée, détournée et vue comme un espèce d'outil qui vient détruire le droit de propriété.
Alors qu'en fait, pas du tout. Cette loi-là fait partie de tout un arsenal, mais c'est peut-être sans doute, et en tout cas c'est ça ce que vous vous mettez en place, ce que vous défendez à travers Utopia 56, c'est que c'est un manque flagrant de volonté politique de réussir à se servir des outils qui sont déjà en place, pas d'en créer nécessairement de nouveaux, mais d'utiliser déjà ce qui est en place pour faire face à l'urgence. Parce que ce que vous demandez, globalement, c'est juste la base de base que les gens ne dorment pas dans la rue.
Oui, bien sûr, tout comme on n'est pas naïf et on sait que la loi réquisition à elle seule, elle ne permet pas de résoudre la question du sans-abrisme en France. En revanche, c'est un premier pas. Déjà, ça démontre d'une volonté. Là, il y a aucun volontarisme. La dernière période de grand froid le montre à nouveau. Mais c'est un premier pas pour répondre à l'urgence et ensuite permettre aussi de travailler avec les gens qui ont des besoins très spécifiques parce que être sans domicile fixe ou être sans abri, ça nous définit pas en entier. Donc on a forcément plein de besoins différents. Les raisons pour lesquelles qui mènent parfois les gens à se retrouver en perte de logement, elles sont souvent multiples, elles sont complexes. Donc en fait, permettre un hébergement, un logement sur une durée longue, ça permet aussi aux gens en fait de se retrouver et de reprendre la route quoi, parce que être sans abri et sans logement, c'est être sur le côté et être laissé sur le côté. Et nous, on pense que c'est inacceptable. Et donc, on n'est pas naïf, la loi réquisition ne permet pas tout. C'est un premier pas. Il y a beaucoup d'autres dispositifs qui sont eux aussi prévus par la loi. Il y a des taux de construction de logements sociaux qui doivent être mis en place par les villes et les collectivités.
Qui sont trop souvent très peu respectés et les gens préfèrent payer
des amendes. Exactement. Donc ça aussi, c'est un problème. Mais il existe tout un tas de choses et on est vraiment parfois sur un refus frontal et assumé de construire du logement social, de réquisitionner, de mettre à l'abri.
Et puis un peu ambiance politique qui a été démontrée par la présence de l'ancien ministre logement Kasbarian, qui lui s'était réjoui d'avoir durci des lois pour mettre les gens à la rue en cas d'impayé, etc. C'était vraiment quelque chose qui le rendait fier, vraiment, de protéger
C'est assez abominable de traîner sur son compte Twitter,
cet ancien ministre. Heureusement, je n'ai pas Twitter.
C'est vrai que du coup, l'adversaire, il est fier de son bilan, et je dis l'adversaire au sens large, des décideurs qui n'actionnent pas ou qui actionnent des choses tout à fait qui vont à l'encontre de tout ce que je raconte là aujourd'hui, notamment cet ancien ministre, où quand il dresse son bilan du nombre de personnes que la loi a permis d'expulser, il est ravi et il s'adresse à cette manne de propriétaires fonciers en exprimant une forme de solidarité avec eux. C'est assez abject quoi, de se réjouir d'avoir remis des gens à la rue, mais c'est vrai qu'on en est clairement là. Du coup, le chemin est long, quoi.
Merci beaucoup.
Et merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale et on va écouter Ruby Jamin. The world can be alone place when you're just a name without a face. You can disappear without a trace.
Since 06, with kids that barely lasted a day. And I felt the rhythm, I made my decision. A question, his path is my fate. And I've been rocking big jeans and big dreams and creams that keep the heat at bay. And I felt the rhythm of vipers and villains and watched them as they fly away. I thank my mom and dad cause they were jamming too. One put me onto jazz, the other onto Ruby. Said tell them sorry for my attitude. So Ruby one and also Ruby two. I've been running through the skies, I've been running my own mind. I've been running since I'm five, you know. And I'm never an old guy. Take off some more shine, never let me have my time, you know. I've been sitting by my window pane, listening for voices in the rain. And I've been jamming like this since 06, with kicks that barely lasted a day. And I felt the rhythm, I made my decision, a question, his path is my fate. And I've been rocking hard stairs, Paddington Bears and glares that scare some people away. And I lost track at 13, yes I've been and seen and still I'm here to stay.
C'était Ruby Jamin. Vous écoutez Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours avec Charlotte Comtesse et nous parlons de l'adoption de la loi protégeant les mineurs isolés.
Oui, donc on est toujours avec Charlotte Comtesse qui est responsable plaidoyer et communication à l'association Utopia 56. Donc après avoir dressé un peu un bilan du mal logement et en tout cas des difficultés que rencontrent toutes les personnes à la rue aujourd'hui en France, on va s'adresser à bon, peut-être ce qu'on pourrait appeler une première bonne nouvelle, en tout cas une nouvelle importante pour tout ça, qui était donc le 12 décembre 2025, si je ne me trompe pas, il y a une proposition de loi qui vise à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme, et elle a été adoptée à l'Assemblée nationale. Est-ce que, Charlotte, tu peux nous expliquer déjà comment était la situation des mineurs isolés avant cette loi et ensuite ce que cette loi, elle change réellement du coup pour les mineurs isolés?
Alors juste avant, il faut savoir que cette loi, ce passage à l'Assemblée, c'est juste une première étape.
Bien sûr.
Donc cette loi-là, en tant que texte, voilà, elle n'a pas été votée dans sa... version complètement finale.
Il y a encore un passage au Sénat.
Ouais, et puis à l'Assemblée. Le passage au Sénat n'est pas garanti. Enfin, il y a encore beaucoup de chemin et de mobilisation à faire autour de ce texte-là. Mais donc, ce qui veut dire que la situation qu'elle permettrait de résoudre demeure, quoi, actuellement. Et en l'occurrence, elle vise à protéger les mineurs isolés en recours de minorité. Et en deux mots, en essayant d'être brève, Les mineurs isolés, c'est du coup des jeunes personnes qui sont donc mineures, qui se déclarent mineures quand elles arrivent en France, qui sont sans leurs parents, sans représentant légal. Et donc, pour être protégées par les services de la protection de l'enfance, il faut bien être mineur. Sauf que l'État français demande à ces personnes-là de prouver par elles-mêmes. C'est donc à elles qu'en vient la charge de prouver qu'ils et elles sont bel et bien mineurs, ce qui est assez compliqué selon les pays d'où on vient. Il n'y a pas toujours d'état civil, etc. Et même quand les gens se présentent avec un passeport, des documents d'identité, là même les évaluateurs peuvent estimer que leur déclaration d'être mineur est fausse et mensongère. Donc voilà, ce qui veut dire que on a des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui sont très jeunes, qui se voient refuser une protection, et à partir de là, quand le département dit « désolé, vous n'êtes pas mineur », c'est retour à la rue en fait, c'est vraiment, voilà. Et donc, cette décision du département, elle peut être contestée par les jeunes. C'est ce qui se passe quand on dit que c'est des personnes qui sont en recours de minorité. Donc, ça veut dire qu'ils saisissent le tribunal, ils vont devant le juge des enfants pour apporter des éléments complémentaires et prouver qu'ils sont mineurs. Donc, c'est un parcours très complexe, c'est très compliqué. C'est quasiment impossible de mener ça seul. Du coup, il faut avoir rencontré une association qui vous met en lien avec des avocats. Ça demande de réunir quand même pas mal de facteurs pour mener ce combat administratif et juridique à terme, parce que ça peut durer jusqu'à 18 mois, donc c'est très long.
Jusqu'à 18 mois. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 18 mois, du coup ? Est-ce que ces mineurs sont accompagnés ou du coup ?
Eh bien, uniquement par les associations, des citoyens, des collectifs, et partout en France, dans toutes les villes de France, vous trouverez des collectifs et des assos qui sont quasiment occupés par l'accompagnement des mineurs non accompagnés, justement, et des mineurs isolés étrangers pendant leur phase de recours. Et cet accompagnement-là, il va consister, selon les capacités des associations, des collectifs, etc., à héberger ces jeunes-là, parce que sinon, vraiment, sans ça, le 115 ne les héberge pas, puisque en voyant une date de naissance d'une personne mineure, alors le 115 se désengage, parce qu'il est réservé qu'aux adultes. D'accord. Ou aux enfants avec leurs parents. Donc il n'y a vraiment aucun dispositif, sauf dans certaines villes où parfois des collectivités vont s'être engagées justement à respecter les obligations qui sont celles de l'État français. En fait, c'est de protéger toute personne qui se déclare mineure. Ça, c'est un peu les textes.
Ça, c'est
quoi.
Une obligation européenne, pareil.
Oui, voilà, ça découle de la Convention internationale du droit de l'enfant qui est au sein de l'ONU, qui est très claire sur, encore une fois, les obligations qui incombent aux États signataires de cette convention, dont la France, qui a été un des premiers pays signataires, qui est de déclarer toute personne sur son territoire qui se déclare mineure, et la protection qui est de protéger. Et la protection, c'est d'héberger notamment, mais aussi d'avoir un accompagnement social, psychologique, enfin tout ce qui permet, tout ce qui va dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est un grand principe quand même qui est reconnu par l'ONU et donc par tous les pays membres de l'ONU.
Et de fait, du coup, avant que cette loi ne soit votée, si jamais elle devait être votée, pendant cette période-là où il y a ce recours-là, où des mineurs essayent de prouver qu'ils sont mineurs, ils ne peuvent que être accompagnés par des associations et l'État français ne prend pas en charge du coup leur accompagnement.
Oui, c'est ça. C'est toute la phase du recours, donc aller rassembler les pièces, trouver un avocat, etc. Tout ça, c'est vraiment le travail des associations avec les jeunes qu'elles accompagnent. Donc c'est du travail essentiellement bénévole et qui est très long, qui est complexe. Enfin, et puis il faut, après, bon, comme toute procédure judiciaire, mais ça détermine ensuite la suite de la vie des personnes, quoi. C'est un vrai enjeu, quoi. Quand les jeunes se font refuser par le département, il y a des jeunes qui sortent de l'évaluation qui décompensent total. Hein. Parce que c'est ultra violent, c'est ultra brutal, en fait, de s'entendre dire par un étranger qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu ou qu'on a rencontré pendant 5 jours, qui nous dit bah non, en fait, t'es pas mineur, alors que les personnes ont traversé des pays entiers en état de traumatisme, parce qu'on sait que les parcours migratoires sont assez traumatogènes. Donc,
c'est une réelle violence supplémentaire par rapport à tout ce que ces personnes-là
ont. Oui, et puis c'est une injustice, parce que comment prouver qu'on est mineur, en fait, c'est insupportable. C'est insupportable comme parole de dire bah non t'es pas mineur. C'est comme si on dit bah non là tu me dis que tu c'est comme si on me disait que je m'appelle pas Charlotte. Comment je prouve que je m'appelle Charlotte, parce que même ma carte d'identité apparemment elle suffit même pas à prouver que je m'appelle Charlotte, parce qu'il y a des jeunes qui arrivent avec leurs papiers, ça suffit toujours pas à prouver qu'ils sont mineurs.
Et donc en attendant que propose du coup cette loi pour remédier un peu à ce problème là
Et donc elle propose de faire en sorte que le recours justement soit suspensif de la décision du département et que donc les jeunes soient protégés pendant toute la période de ce recours. C'est-à-dire qu'une fois même qu'ils ont, imaginons que en première instance devant le juge des enfants, ils perdraient entre guillemets à nouveau, alors ils peuvent faire appel, donc ça rallonge à nouveau. Et pendant ce temps-là de l'appel, tant que toutes les voies ne sont pas épuisées, alors le département, avec financement de l'État, devrait protéger ces jeunes, les héberger. Ça, c'est ce que prévoit cette loi-là. Et ça s'appelle ni plus ni moins le respect de la présomption de minorité, qui est donc un principe qui est reconnu par la Commission nationale des droits de l'homme, par l'ONU.
La présomption de minorité, c'est si quelqu'un déclare qu'il est mineur en arrivant dans un pays, il y a cette présomption de minorité qui s'applique.
Et donc,
il est présumé mineur et donc du coup doit être protégé en ce sens-là. Ce que ne fait pas l'État français.
Ce que ne fait pas l'État français, ce qui est pourtant reconnu, recommandé, pointé du doigt par la Défenseure des droits, par l'ONU, par la CNCDH, c'est largement documenté, largement contesté, et pourtant la France continue et s'acharne à ne pas respecter ce qui fait qu'on se retrouve donc dans des situations comme on est encore actuellement, où à Lyon il y avait encore quelques jours il y avait 300 jeunes qui étaient dehors dans des tentes sous la neige. À Paris, c'est le cas actuellement. Ils sont entre 250 et 300 jeunes à être sur les quais de Seine dans des tentes sous la neige. Et ça, c'est tout le temps, toute l'année, depuis... Enfin, Utopia, à 10 ans, on a toujours connu cette situation, par exemple.
On a toujours connu cette situation-là. Et aussi, du coup, le désengagement de l'État que cette loi va essayer de peut-être solutionner. Bien entendu, c'est une urgence et c'est une urgence absolue. Ça ne va pas solutionner tout le problème. Et par rapport à ça, donc du coup, vous vous battez énormément par rapport à ça. On sait que, du coup, cette loi-là, elle est passée, du coup, à l'Assemblée nationale. Du coup, pour le premier vote, elle va passer au Sénat. On sait que le Sénat penche quand même sérieusement à droite et donc, du coup, risquera peut-être de changer fondamentalement sa loi. Elle va repasser à l'Assemblée nationale. Vous, en tant qu'association, est-ce que donc vous faites du plaidoyer auprès de partis politiques ? Est-ce que vous avez des alliés au niveau des assemblées par rapport à ça ? Des gens qui vont porter ça ? J'avais vu que, par exemple, il y avait Daniel Simonet, par exemple, du groupe Écologiste et Social, qui avait porté notamment cette loi-là à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui commence à changer à ce niveau-là, notamment de ce que tu disais sur la prise de conscience pendant cet épisode de froid, des gens qui dorment à la rue ? Est-ce que tu sens qu'il y a peut-être des chances pour que votre action puisse porter ses fruits ?
Je nous le souhaite très fort. On y croyait à peine que ça passerait les premiers votes à l'Assemblée nationale. Donc c'est génial. Enfin, c'est vraiment incroyable que ce soit passé. C'est le résultat de la mobilisation aussi des gens, hein, parce qu'on a fait une grande campagne d'interpellation pendant plusieurs semaines. Ça a été très fort, ça a été très repris, ça a été très relayé. Où les députés étaient interpellés par les citoyens directement. Effectivement, il y a des alliés, hein, chez les élus. On a beaucoup compté sur eux. Il y avait aussi des alliés au Parti Socialiste. D'ailleurs, c'est une proposition de loi qui a été déposée par Emmanuel Grégoire, qui est un candidat au municipal de Paris. Donc voilà, il y a des alliés effectivement dans différents groupes politiques sur les sujets d'accueil, de solidarité, de manière générale. Il y a vraiment des élus qui sont au rendez-vous. Bon voilà, on n'ignore pas la photographie de l'Assemblée depuis l'année dernière. Pareil au Sénat. Donc effectivement, ça va être très compliqué. Ce qu'on craint évidemment, c'est qu'il y ait une forte mobilisation des partis ou des élus qui ne voudraient pas voir cette loi passer au prochain vote, parce qu'il y a aussi cette question-là qui est réelle. Hein, c'est
le cheminement de la navette parlementaire qui, au final, peut détricoter toute une loi de sa substance.
Aussi, oui. Et puis aussi, il peut y avoir des absents pendant les votes qui font pencher la balance. Selon si l'extrême droite était assez mobilisée sur la... au moment du passage à l'Assemblée, les débats étaient évidemment détournés de leur objet principal. Et donc, tout d'un coup, on parle des personnes étrangères plus que des enfants. Et donc, de quelle légitimité auraient ces personnes à être accueillies par la France, voilà, avec des tas de propos racistes, haineux. Donc on n'a pas que des alliés, et si ces personnes qui tiennent ces arguments-là se mobilisent fortement, ça va rendre la tâche bien plus difficile, quoi.
Tu parlais justement tout à l'heure du fait que ça avait marché en partie parce qu'il y avait une mobilisation citoyenne qui avait été faite pour interpeller les élus et leur demander justement de travailler là-dessus. Comment est-ce que nous, donc les auditrices, les auditeurs, nous tous, comment est-ce qu'on peut réussir à vous aider, ou en tout cas à faire en sorte que les actions que vous portez puissent avoir un écho auprès des élus, auprès des personnes qui prennent et qui prennent justement ces décisions et ces lois?
Déjà, il y a nos élus locaux, hein, qui sont nos élus à chacun, chacune. Voilà, il va y avoir les élections municipales dans toutes nos villes. Ça, c'est des choses dans lesquelles il faut s'investir et s'engager et interpeller les candidats à s'engager justement sur des plans de prise en charge et d'accompagnement et de considération des personnes précaires, sans abri, sans domicile, même si c'est pas une situation qui nous concerne. Je pense qu'en vérité, en plus, la pauvreté et la précarité, elles nous concernent un peu tous de près ou de loin, à mon avis. Que l'on soit étudiant, retraité, jeune travailleur, etc., c'est quand même quelque chose qu'on connaît, en fait. Et donc voilà, donc je pense que c'est des sujets qu'il faut porter soi-même aussi pour faire société. Et puis ensuite, évidemment, se rapprocher des associations, notamment comme Utopia 56. Et nous, via nos réseaux, nos newsletters, on donne plein de moyens de quand on lance nos campagnes d'interpellation, de communication sur certains sujets, comme ce sera le cas très prochainement pour la suite de cette navette pour cette loi.
Continuer à sensibiliser, voilà. Continuer à s'informer, vous suivre sur les réseaux.
C'est ça. Et les actions qu'on propose, elles sont simples, hein. En général, plus on occupe l'espace médiatique aussi, et plus il y a de partage, et plus on fait masse, et plus on fait groupe, le sujet s'impose. Et c'est en s'imposant que, voilà, on aura des décisions favorables.
Merci beaucoup, Charlotte Cointès, pour tous ces éclairages. Et suivez Utopia 56 sur les réseaux et renseignez-vous en tout cas pour toute la suite de vos projets.
Merci.
Merci, Charlotte Cointès. Merci donc Vladimir. Et tout de suite, c'est le Flash Info présenté par Tiana.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Merci Fabien, et voici les actus du jour. Côté cinéma, le film Father, Mother, Sister, Brother, Père, Mère, Sœur et Frère, sort aujourd'hui en salle. Cette comédie dramatique met en scène trois histoires parlant de relations entre des adultes et leurs parents. On y retrouve notamment Kate Blanchett et Adam Driver. Certains ne sont toutefois pas prêts à se brancher culture pour le moment. Dans l'Hexagone, la grève des médecins libéraux ayant débuté lundi dernier continue. Ils dénoncent le durcissement des règles encadrant les arrêts maladie et disent se sentir excessivement contrôlés. La mobilisation se traduit par la fermeture de nombreux cabinets et le refus de nouvelles consultations. Ceci risque d'aggraver l'engorgement des hôpitaux en pleine épidémie de grippe saisonnière. Les agriculteurs font aussi entendre leur colère près de Toulouse en faisant barrage à l'entrée de la ville. La plupart expriment leurs inquiétudes face aux négociations entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine membres du Mercosur. L'accord de libre-échange envisagé ouvrirait la voie à une importation accrue de produits agricoles sud-américains à bas prix, ne respectant pas les normes sanitaires européennes en vigueur, ce qu'ils perçoivent donc comme une forme de concurrence déloyale. Et dans le monde maintenant, saviez-vous que le 7 janvier était aussi un jour de Noël pour les chrétiens ? Aujourd'hui, 250 millions de chrétiens orthodoxes célèbrent Noël car ils utilisent le calendrier julien et non le calendrier grégorien comme les catholiques. Mais malgré cette différence de date, les traditions et rituels restent similaires. En tout cas, certains l'auront peut-être fêté à l'aéroport puisque celui d'Amsterdam a aujourd'hui annulé pas moins de 700 vols à cause de la neige et du vent. Il s'agit d'un des plus grands aéroports d'Europe et c'est donc un important lieu de correspondance. Plus de 1000 personnes ont été contraintes d'y passer la nuit. Voilà, voilà.
Merci Tiana, vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9 FM et on écoute tout de suite Kirito Cut. Bye. Et on écoutait Kirihito, Cut.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et dans le Zoom, aujourd'hui, nous recevons Benjamin Tolosane qui nous se produira au Métallo du 8 au 10 janvier. Avec Parler Pointu, son spectacle qui a beaucoup tourné et qui revient sur l'histoire des accents et la disparition des langues régionales. Il sera interviewé par Diane. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Bonjour Diane.
Bonjour.
Et c'est à toi.
Alors déjà, Benjamin, on est à quelques jours du début de votre présentation à la Maison des Métallos. Alors vous avez déjà fait pas mal de fois, de ce que j'ai compris, votre spectacle, mais comment vous vous sentez à quelques jours?
C'est la veille, en fait.
Oui, c'est la
demain.
Veille.
De toute façon, j'ai toujours autant le trac. Même, effectivement, ça, on va jouer la 100e, là, donc on l'a pas mal joué.
Ouais.
Mais j'ai quand même le trac, et j'ai le trac de reprendre à Paris aussi.
Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait
Ça fait 2 ans, on l'avait joué au Théâtre 13 il y a 2 ans.
Ok. Mm. Donc oui, c'est un peu la remise en bouche, on va dire. Je sais pas si c'est... Puisqu'on va parler de langue,
ouais,
je pense que
c'est approprié. Ouais.
Le spectacle qui s'appelle Parler Pointu. Alors déjà, ça veut dire quoi? Et comment est-ce que l'idée du spectacle est née?
Alors, parler pointu dans le midi, ça veut dire ne pas avoir l'accent du sud. Ça veut dire avoir ce qu'on suppose être l'accent parisien, qui en réalité n'est pas l'accent parisien. Mmh. C'est la façon dont on parle là, nous trois. C'est-à-dire ne pas avoir d'accent, c'est un français neutre qui est souvent celui des médias, de la télévision et du théâtre. Puisque sur les scènes de théâtre, on n'entend pas beaucoup de gens avec des accents régionaux. Mmh. C'est relativement rare. Et donc le spectacle parle entre autres de ça. Ouais.
Et d'ailleurs, vous dites, et en regardant des interviews, j'ai compris ça, que vous avez dû, donc vous venez du sud de la France,
ouais.
Et que pour commencer à être comédien, vous avez dû un peu, pas dire effacer votre accent, mais vous...
Si, c'est le bon mot. Hein. Ouais, mais déjà, je prenais des cours de théâtre dans ma région assez jeune et on nous disait déjà que c'était qu'il valait mieux pouvoir le gommer, ils appelaient ça le gommer, pour pouvoir jouer les grands textes. Et souvent, c'était des profs eux-mêmes qui avaient l'accent de la région, qui nous disaient qu'eux, ils avaient appris à jouer sans, etc. Et donc, voilà, moi, ça s'est fait de façon assez...
Naturelle.
Oui, même inconsciente, en fait. C'est plus tard que je me suis dit... parce qu'il me restait quand même des... Quand je suis arrivé à Paris, je pense qu'il me restait des intonations et on me le faisait encore remarquer. Et puis, je me suis plié. Et puis, avec le temps, l'habitude, forcément, il y a une sorte de mimétisme. On finit par parler comme les gens qui nous entourent et sans même le vouloir. Mais c'est avec le recul que je me suis dit que c'était quand même pas si anodin, quoi. Que c'est pas une question si...
Et d'ailleurs, est-ce qu'en rejoignant ce spectacle, peut-être plus dans votre commune natale, il y a l'accent qui est revenu pendant les présentations?
Oui, bien sûr. Déjà, l'accent, j'en fais beaucoup des accents dans le spectacle.
Oui.
Mais l'accent de ma région en particulier, puisque je joue toute ma famille... Et que la plupart d'entre eux ont un accent assez prononcé. Mais oui, ça revient. De toute façon, les histoires d'accent, souvent, ça revient à des moments où on s'en rend pas compte quand on est fatigué, quand on s'énerve, quand on est au téléphone avec quelqu'un. Voilà, ce genre de trucs.
Et d'ailleurs, et du coup, comment est-ce que c'est venu cette idée de spectacle, de parler de ces langues régionales, de parler aussi de qu'est-ce que... Parce que en fait, le langage, c'est aussi une vraie question d'identité. Comment est-ce que c'est venu
En fait, c'est vrai que le spectacle, le point de départ, c'est la perte de l'accent pour être un acteur sérieux, entre guillemets. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, les accents régionaux, c'est les vestiges des langues qui étaient parlées autrefois en France et qui ont beaucoup, beaucoup régressé, qui n'ont pas disparu complètement, mais dont il y a beaucoup moins de locuteurs aujourd'hui.
Ouais.
L'État français a mené pendant des siècles une vraie politique d'éradication de ces langues régionales. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'écoles en breton et les calendrettes en Occitanie, etc. Mais c'est une histoire assez, assez violente, en fait, de conquête par la langue. Et en fait, c'est venu parce que pour l'enterrement de mon grand-père, j'ai lu un texte en occitan, parce que mon grand-père me disait souvent que je parlais pointu depuis que j'étais parti à Paris. Donc, j'ai lu un texte en provençal. oral, mais qui est une forme d'occitan, oui. Pour son enterrement, parce que lui le parlait, et en lui disant, enfin voilà, en voulant faire comme ça un très bel hommage, et en lui disant que même si je parlais pointu, j'avais toujours ma culture en moi, et tout ça. Et en fait, personne n'a rien compris. Les gens m'ont demandé ce que c'était que ce charabia, et donc ça m'a fait rire, enfin, ça m'a pas fait que rire. Ça m'a
un
peu, je me suis dit, ça c'est fou, en fait, en deux générations, c'est perdu, quoi. Mes parents comprennent un peu, mais mon frère et moi, ben, on parle pas, on comprend pas. Et donc, je sais pas, ça nous a donné envie, avec Hélène François, la metteuse en scène avec qui on a coécrit le spectacle, de nous plonger un peu dans l'histoire de ces langues qui sont mal connues, en fait, méconnues. Et on s'est dit que c'était l'occasion de raconter à la fois un truc très intime, qui avait l'air un peu comique et dérisoire et rigolo, et aussi de parler de l'histoire de notre pays avec un, enfin, l'histoire avec un grand H, quoi. Voilà.
Et comment ça a été perçu quand vous avez annoncé, du coup, à votre famille, que vous jouez en plus dans le spectacle, que vous alliez parler des langues et de comment est-ce que vous avez aussi évolué, etc. Comment ça a été perçu dans votre famille, aussi dans votre entourage, je sais pas, vos potes, comment vous, ça s'est senti?
Dans ma famille, j'ai un peu éludé la question jusqu'au moment où ils sont venus et où ils se sont rendus compte que je les imitais sur scène.
Si ça peut vous rassurer, c'est aussi une stratégie que j'ai. Quand je fais des chroniques à la radio et que je parle de ma famille, je suis en mode, je n'en parle pas et quand ça sort, ça sortira.
Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'avais envie de continuer à faire comme si c'était des personnages de fiction parce que ça m'aide à les jouer tous les soirs. Mais bon, après, ça les a quand même fait rire. En plus, moi, je viens d'un milieu, mes parents adoraient la caricature, ils adoraient la BD. Enfin, donc, ils sont très ouverts à ça. Mais sur la question de l'occitan, c'est marrant parce que je pense qu'il y a 3 ans ou 4 ans, vous m'auriez dit que j'allais écrire un spectacle sur ça, je me serais marré parce que pour moi c'était vraiment des trucs ringards, quoi, folkloriques.
Ouais, si intéressant aussi, peut-être.
Je sais pas, je pense que j'avais un truc hérité aussi de mes grands-parents et de mes parents où c'est des langues qui ont tellement été. Il y avait une honte liée à ça qui fait qu'on a toujours considéré ça comme un petit folklore, mais pas très intéressant, pas très. Et en fait, j'étais loin d'imaginer que c'était une partie de l'histoire de France passionnante, très violente,
aussi.
Très profonde, que ces langues étaient quand même des langues de culture, de poésie, des langues de civilisation, en
totalement.
Fait, des langues d'art aussi, voilà. Non, ils sont plutôt, y en a qui trouvent toujours que c'est un peu, qui comprennent toujours pas pourquoi je fais un spectacle sur ça, et puis y en a que ça fait rire, et puis y en a d'autres que ça intéresse, en fait. Ça nous permet à tous d'ailleurs de re-questionner un peu ça chez nous, parce qu'on est tous faits de ces contrastes-là. Je pense que pas seulement les méridionaux, hein, on a tous des influences comme ça dans nos familles.
Moi, je viens de Tours. Et
ça c'est le français parfait.
Voilà, parce que, en fait c'est marrant parce que cet après-midi quand j'ai préparé, je me suis dit oh là là, comme c'est une bonne nouvelle. Donc le français parfait, etc. Tout le monde est fier de ça à Tours, qu'on a le français avec le moins d'accent. Et en fait, il y a même des cours, enfin il y a même des écoles pour les étudiants étrangers pour qu'ils viennent apprendre la langue française et qu'ils soient le plus sain. Oh là là, je vais me prendre une tollée.
Oui,
après.
Mais en réalité, c'est parce que c'est des concepts un peu de dire le français parfait, le français le plus pur et tout ça, mais ça vient de loin, puisque c'était je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est quand même lié à l'époque de François Ier et de la cour, et que le français qu'on parle aujourd'hui est un français qui a été récupéré par des linguistes en disant il faut que les gens parlent comme le roi, comme à la cour du roi. Donc ça vient quand même d'assez loin, quoi.
Et en plus, maintenant, il y a beaucoup.
Le François, qui était une langue régionale parmi d'autres, parlée en Touraine, est devenu la langue nationale, en fait, parce que. Mais c'est passé par énormément de. J'en parle dans le spectacle, mais il y a plein d'étapes. Il y a le moment où ils ont décidé qu'il fallait que tout le monde parle, au XVIIe siècle, dans les salons, etc. Mais ça a continué même à la Révolution après. Et ensuite, on a quand même, jusque dans les années 40, on punissait les enfants à l'école quand ils parlaient breton ou picard.
Et d'ailleurs, je crois que. Alors, je ne sais pas si c'est encore actuel, mais je connais des personnes qui vivent en Corse et qui sont corses. De naissance, etc. Et je crois qu'il y a encore, quand on est collégien, lycéen, il y a encore des cours de Corse. Est-ce que vous pensez que d'ailleurs ce serait intéressant, même pour des personnes qui ne vivent pas dans des. Enfin, je sais pas. Que ce soit pas forcément. Parce qu'on habite en Corse, qu'on apprend à parler le Corse, ou parce qu'on habite en Bretagne, qu'on parle le breton.
Mais c'est même encore plus intéressant que ce soit des gens qui sont pas nés dans la région et qui Ouais, moi je pense que de toute façon c'est toujours intéressant d'apprendre des langues. Moi, j'avoue humblement, l'occitan, je le parle toujours pas bien, mais depuis que j'ai écrit le spectacle, je me suis quand même plongé un peu dedans. Mais c'est toujours intéressant d'apprendre des langues, que ce soit des langues très parlées ou pas. Oui, je pense que.
Puis même des langues d'outre-mer, le guadeloupéen, etc. C'est des langues qui sont hyper riches et qui en plus sont riches d'histoire et qui nous permettraient aussi de comprendre un peu plus.
D'ailleurs, la répression dont je parle à l'école et avant a été menée non seulement contre ce qu'on appelait les patois, mais les langues créoles aussi.
Ouais.
Et c'est d'ailleurs. On fait un petit parallèle avec la colonisation dans le spectacle. Qui est un petit parallèle, on peut pas le faire en entier, mais en tout cas dans l'aspect répressif et dans l'aspect dans la lutte culturelle qu'il y a eu au niveau des langues régionales en France, c'est un modèle qui a été repris et exporté dans les colonies.
Bien sûr. Et une petite dernière question pour finir, ça fait plusieurs années que vous faites ce spectacle, avoir la 100e et une soirée spéciale avec un DJ set, etc.
Ouais.
Ça veut dire quoi maintenant pour vous parler pointu? Est-ce que ça a changé avec le temps et depuis la première fois où vous l'avez joué du coup ce spectacle?
Oui, je me rends compte que déjà ça change selon la région, parce qu'on a, comme on l'a pas mal tourné, on l'a joué dans des régions différentes, on l'a joué en Alsace, on l'a joué en Bretagne, on l'a joué en Normandie, là on va même aller en Belgique, donc c'est sûr que ça s'écrit pas pareil.
Ouais.
Les gens, dans le sud, je sens que les 10 premières minutes, les gens ils m'attendent au tournant. ce que je trouve assez beau, c'est que les gens me racontent à la sortie, me parlent plus d'eux que du spectacle, c'est-à-dire ils me parlent d'anecdotes, de choses qu'ils ont vécues, de discrimination qu'ils ont vécues, et donc le spectacle s'enrichit de ça en fait tous les soirs, chaque fois qu'on le joue devant un public différent. Donc ouais ça change, et puis j'ai moins peur maintenant, je le vois beaucoup, enfin comment dire, c'est quand on écrit
ça divise les langues aussi.
Ouais, c'est la première fois que j'écris un truc et que je parle de moi. J'ai toujours été que comédien chez les autres avant, mais finalement je trouve que ce qui est assez chouette, c'est que quand les gens s'en emparent après le spectacle, ça devient plus du tout ma petite histoire complaisante nana, ça devient quelque chose dont d'autres s'emparent pour réfléchir sur leur propre parcours, et ça je trouve ça vraiment
c'est
génial.
Fascinant. Ouais. Donc Benjamin, vous jouez au Métallo le 8, donc demain au 10 janvier pour Parler Pointu.
Trois dates, ouais.
Avec des soirées spéciales pour la 100e avec un DJ set, donc venez.
Ça c'est une bonne. Et les horaires, ils sont un peu particuliers, donc je vais les donner si vous voulez bien. Donc le 8 janvier 19h, le 9 janvier 14h30 et le 10 janvier 18h.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Eh bien, merci Benjamin Tolosan, merci Diane, et on fait une petite pause musicale avec Kyrio. Non. Avec Moscou Death Brigade, Brother and Sisterhood. Steel mask and drag suit. You know we're the angry youth. We're back on the track of death. Brother and sisterhood. Steel mask and drag suit. You know we're the angry youth. We're back on the track of death. Brother and sisterhood. 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 Right speed us, the real trend hit us. Back on the streets to show them all what will hit us. Defy them, lead us. We stay united, they can't defeat us. Get up blasting, we stay nasty. Rip them, stay tanks out, outlast them. I say the government like antipasti. We are vandals, hooligans, bums and crosses. Disgusting, that's how they call us. Nothing but a style, cause they got no crosses. Plus, we face the falls. Fangs and calls, yeah, I've got some of those. That's how it goes, you take a stand. More than a band, you can trust a brand. I got a bad accent, you can't understand. But this beat and the form, make a brand new head. Ski mask and track suit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother and sisterhood. Ski mask and track suit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother and sisterhood. 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 Speak in the walls, give me gaps, pack it. I get the same calls and the same lost face. Check it, still making a record. Unity, bullet right, but who can't break it? Nah. We get it one stop, bring in the noise, make a circle beat, keep calm, blast from hysteria. What do you say that? Bingo is obvious, I will rebury them. Jump in the pit, we're shouting monks, skinners and punks, spiritual lungs. Weapons come, gets rocked to the light, kids are right, ready for a fight night. Why is it will, the commodity won't stop, crew in the front, wall with the beat drop. From stadium, stage up, dodging squad, everybody slams through the circle beat, keep calm. Ski mask and track suit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother and sisterhood. Ski mask and track suit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother and sisterhood. 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 I was the clock.
it, jesters, raise up voice, know no limits. Stepping over back, stabbers and schemers, clicks and tricks, scabs and pigs wanna split us. We are meant to be called thus, can be taken apart, break the face, against the glass. Radical philosophers, ill willings, xenophobes, arrogant provocateurs shall not pass. Break the fiction, a name is legend, step up and face the birth of the legend. Close your eyes with the fakest lies, they can never break, rip family ties. We unite against hate, crime, close-minded, pro-white, homophobes, internet fighters. Pay the biggest, we bring down the mic, with a mic in the hand and fire in the rhymes. Skin mask and tracksuit, you know we're the angry you. We're back on the track to attack, we brother, and say the quote. Skin mask and tracksuit, you know we're the angry you. We're back on the track to attack, we brother, and say the quote. 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 Brother, and say the quote.
C'était Moscow Death Brigade, Brother and Sisterhood.
Ah. La matinale de 19h.
Et nous allons finir cette matinale en beauté avec Farah qui va nous faire découvrir en avant-première le premier chapitre du livre qu'elle a coécrit. Bonjour Farah.
Bonjour. Alors, ma mère a 60 ans dans 6 mois. Je vous avoue qu'avant aujourd'hui, je lui avais jamais fait de cadeau. En revanche, elle, qui m'a élevée seule, m'en a fait des tonnes et des beaux de cadeaux. Donc en 2026, j'ai décidé de l'aider à réaliser son rêve. Écrire une série qui raconterait sa vie. Rien que ça. Une vie qui, spoiler alert, est loin d'être classique. 5 mois pour écrire la série qui porte le nom, légèrement provoque, de roulement de tambour. Musulmane et fan de porc. Alors, le 1er janvier, en Belgique, elle a tout envoyé valser pour s'installer ici, dans la ville des Lumières, Paris. Entre nous, à Bruxelles, BX pour les intimes, et dans le reste du monde, on va pas se mentir, les Parisiens ont pas la cote de la bonhomie. Mais ma mère, c'est votre fervente défenseur. Qu'est-ce qu'elle vous kiffe ? Bon, je vous fais le pitch. Dur pour une enfant d'être musulmane et fan de porc. À 7 ans, Galia, la racketteuse de jambon, sème la terreur à la cantine. Elle rêve d'une seule chose, être adoptée par les charcutiers du quartier, les Van der Waren. Mais Madame Van den Put, la cantinière, son pire cauchemar, ne l'entend pas de cette façon. Et donc, chaque vendredi, on publie un chapitre, et ben, je vais vous lire le premier, comme tu le disais, qui porte le doux nom de Justin Bridoux. 3, 2, 1, c'est parti. J'ai 7 ans, la rage au ventre et déjà des envies de meurtre. Pas contre les gamins de l'école, ni contre les voisins, mais contre les miens. Cette famille que je traîne comme une punition. Alors, je m'échappe, en fermant les yeux. Et là, je respire dans mon monde à moi. Là où je suis aimée, là où j'existe, là où j'ai le droit de manger du jamon, du joufflu, du gucci, du bien rose. Il mio prosciutto d'amore. Ce festival jambon-beurre, où danse comme une farandole de fricadelles brillantes, luisantes. Interdites, surtout. Dans ma tête, c'est simple comme bonjour. Je suis belge, comme Anne, la fille des Van der Waren, les charcutiers de mon quartier. Mais à chaque fois que je dis belge, je récolte 3 petits froncements de sourcils. 1, 2, 3. Puis, la sempiternelle et même question débarque. Oui, mais de quelle origine ? Comme si belge tout court ne suffisait pas. Comme si je m'étais incrustée dans ce plat pays en douce, telle une squatteuse d'identité venue piquer le pain sur la tablée du voisin d'à côté. Je me le répète tel un mantra. Je suis belge comme les Van der Waren. Oui, je suis belge comme les Van der Waren. J'ai des racines, on est bien d'accord, qui n'en a pas ? Même un vulgaire poireau en a ! J'avoue, j'ai pas les cheveux très belges. Mes bouclettes à moi sont « made in Morocco ». Je suis musulmane par culture et fan de porc par nature. Et ouais, je surkiffe le jambon, le grand drame de ma vie. Oui, oui, j'insiste. Le drame de toute une vie. Et il a fallu que cette foutue malédiction me tombe dessus. Mon jour de fête à moi, c'est pas mon anniversaire, c'est pas Noël, et encore moins la fête du mouton. C'est le lundi, le jour du macaroni au jambon. Et donc, si vous voulez connaître la suite, ça se passe sur Wattpad. Musulmane et fan de porc vous attend avec un nouveau chapitre chaque vendredi. Alors, je vous dis à vendredi.
Eh bien, merci Farah. Et effectivement, on a hâte de connaître la suite. Et la matinale de 19h est terminée. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à Charlotte Contes, merci à Vladimir, merci à Benjamin Telozan et à Diane. Merci à Tiana pour le Flash Info et Farah pour sa chronique. Merci à Julie pour la réalisation de cette émission et bien entendu un grand merci à Johan, à Jeanne et Aude pardon, pour la coordination de cette émission. Restez sur le 93.9, à suivre c'est le monde zygomatique sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous.